Didier le Ménestrel, bonjour.
Bonjour à notre Didier, c'est bien agréable.
Voilà, deux Didier qui vont parler des marchés. Vous êtes président de financière de l'Échiquier. On va parler de stratégie d'investissement ensemble. Alors, dans une période où on a vu beaucoup de gestion revenir sur la partie action, on a vu des gens plus favorables à cette partie action. On a envie de dire, c'est un petit peu logique, on sentait bien que les banquiers centraux voulaient que les investisseurs prennent plus de risques. Est-ce que c'est, de votre point de vue, normal ce qui s'est passé, on va dire, entre la fin d'année et ce début d'année?
Normal, oui, parce que ça fait quand même une bonne année qu'on attendait ce mouvement de revirement vers le risque. Mais ce mouvement, il a surtout été capturé par le marché obligataire en 2012. Le marché obligataire qui a explosé, qui a été absolument exceptionnel, où toutes les maturités, toutes les signatures, tout le monde est rentré dans le rang, y compris les États du Sud. Donc la partie action, pour l'instant, je veux bien croire qu'il y a beaucoup de gens qui annoncent qu'ils vont lui donner leur faveur, mais dans les faits, pour l'instant, ça reste quand même très très calme, en tout cas en Europe.
Alors c'est vrai, ce qui était peut-être étonnant pour beaucoup d'investisseurs, en tout cas ceux qui n'auraient pas participé à ce qui s'est passé en 2012, c'est que finalement beaucoup de classes d'actifs ont bien performé, ce qui est effectivement bien pour les investisseurs qui ont joué, qui ont investi à ce moment-là, mais c'était étonnant que toutes les classes d'actifs finalement performent assez bien.
Le plus étonnant aura été finalement le plongeon de la volatilité. Je pense que c'est ça qui marquera réellement l'année 2012. Il est normal qu'il y ait de bonnes surprises, alors que les marchés rebondissent, que le marché français prenne 15%, le marché allemand plus de 20%. Ce n'est pas tant ça, puisque dans les périodes récessives, on peut faire moins 20, plus 20. Finalement, ce n'est pas très grave dans le sens de l'histoire. En revanche, la volatilité s'est écroulée, et là, c'est exactement ce que recherche la Banque centrale, inonder le marché de liquidités, inonder le marché de liquidités qui, ne trouvant pour l'instant pas à s'investir et ne voulant pas aller prendre des risques, inonde la volatilité. Et c'est extraordinaire de voir, je crois qu'il y a des pas de 15 à 20% seulement entre le plus haut et le plus bas sur la plupart des marchés. C'est historique, c'est historiquement bas et ça ne durera pas. Soyons bien clairs, l'acheteur agressif, il est plutôt acheteur de volatilité aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup plus à gagner qu'à être vendeur.
Alors justement, c'est peut-être un des sujets de cette année, de ce début d'année, c'est de dire, mais est-ce que finalement la bourse va bien, l'économie, elle, va pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit en Europe, même aux États-Unis, c'est pas encore loin des reprises. Donc est-ce que les investisseurs ont pas été un peu vite et n'anticipent pas de trop bonnes nouvelles?
Non, alors il se passe quand même un phénomène très important à valider, c'est que l'argent circule. Alors moi, il y a deux points clés pour cette année 2013. L'argent circule, c'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Je rappelle que le système financier s'est arrêté en 2008 et la chute de Lehman a été une crise exceptionnelle qui, heureusement, ne se reproduira pas. C'est-à-dire, en 2011, on a remis le couvert sur l'arrêt de la circulation de l'argent en bloquant le système en Europe et on a prédit, certains ont joué, l'arrêt de l'euro. Ce qui eût été, en tout cas économiquement, on ne sait pas, mais enfin, en tout cas techniquement dans les marchés financiers, ce qui aurait été plutôt de l'ordre de la catastrophe. Aujourd'hui, en tout cas 2013, l'argent circule, c'est une bonne chose. Deuxième bonne chose, le monde va bien, le monde va plutôt bien. Il n'est absolument pas en accélération comme ça a été le cas parfois en 2006-2007 ou même en 2009-2010. Donc les risques d'inflation sont modérés. Donc un monde qui va bien, de l'argent qui circule, c'est favorable à l'économie mondiale en général. À côté de ça, l'Europe va mal. Est-ce qu'elle va aller très mal? C'est sûrement le scénario que nous n'avons pas. C'est peut-être le risque. Est-ce que l'Europe, au lieu de faire un mild recession, comme on dirait, un petit moins 1 au grand maximum, est-ce qu'elle va s'enfoncer moins 2, moins 3? L'argent circule, la Banque centrale dit, moi je suis à carnet ouvert pour que vous essayiez de prendre des risques. Moi je crois qu'au cours de l'année, on aura plutôt une mise en place de bonnes nouvelles. Mais ça va être très très lent. Il est clair que l'Europe a un problème fondamental, c'est de régler ses dettes. Elle met en place des politiques qui sont plutôt récessives. Peut-être qu'elle va les assouplir, mais de toute façon, l'environnement n'est pas favorable. La seule chose qui soit favorable, c'est que le reste du monde va bien. Et c'est ça qui nous amène à être optimistes sur l'Europe et sur la valeur des sociétés européennes. Je le fais un peu vite, mais bon, on a pas beaucoup de temps.
Alors, on parlait des États-Unis. On pourrait dire, si on parle de la dette en Europe, aux États-Unis, ils sont loin d'avoir réglé leur sujet dette.
Oh là, alors ça, c'est... Mais on va leur faire confiance. En tout cas, les Américains, ils ont un côté pragmatique formidable. C'est qu'ils ont été régulièrement avec des dettes au-delà de 100% du PIB, en période de guerre. Je crois que j'ai un graphique en tête où deux fois au cours du siècle dernier, ils sont arrivés à ça. Et ils trouvent toujours une solution. Et il est vrai que pour ça, le libéralisme est peut-être un petit peu plus fort que l'économie aidée que nous connaissons en Europe. Je veux dire, il y a trois grandes zones qui ont des problèmes de dette et qui les gèrent de façon différente, les États-Unis, l'Europe et le Japon. Le Japon essaie de le régler depuis 20 ans, n'y arrive pas. L'Europe commence à vouloir le régler, trouve des solutions plutôt récessives à l'art allemande. On essaie d'être un peu plus pragmatique. Et les Américains sont très, très pragmatiques. Et a priori, moi, c'est vrai que je leur donne plus de chances qu'à nous de le régler plus vite.
Alors, ils l'ont réglé, les Américains, ils le règlent souvent par le dollar. Les Japonais sont en train d'essayer de le régler avec le yen. Nous, on a l'impression qu'on est coincé avec notre euro.
Voilà, notre euro fort, qui est sûrement le principal croix ou poids apporté depuis maintenant plus de 10 ans, hein, puisque l'euro fort, ça date de 2002-2003. Ça met en péril toutes nos économies industrielles. Prix à payer pour une vision de l'économie qui est très allemande. Cela dit, pour l'instant, tant qu'il reste aux alentours de 1,30 et que les banques centrales surveillent, et que les banques centrales US, Europe et japonaises ont quand même compris qu'il fallait mieux travailler ensemble plutôt que de se taper sur la figure, nous on reste relativement confiants pour qu'il n'y ait pas de grands écarts. Mais il est sûr que ça fait partie des risques et surtout des poids à apporter qui sont complètement ridicules. Hein, cette espèce d'accroche à une inflation très très basse fait que tous nos industriels supportent un euro qui était très surévalué, qui l'est un tout petit peu moins maintenant qu'il y a eu un peu de dérapage en Chine sur le prix de leur matière première, le prix du travail, et puis un tout petit peu sur le yuan. Mais il est vrai qu'à 1,35, il ne faut pas aller beaucoup plus loin.
Alors, vous parliez des valorisations en Europe, justement. Est-ce que malgré ces hausses, justement, malgré ce qu'on a eu en début d'année et puis fin d'année dernière, est-ce que les actions européennes, alors que ce soit les grandes valeurs, les plus petites aussi, en termes de valorisation, il y a un potentiel sur ces actions ?
On a un marché complètement à deux vitesses. Hein. La croissance visible est très bien évaluée. Alors la croissance visible, c'est Essilor, Givaudan, c'est Nestlé. Alors là, ça se comprend très bien. Dans un monde sans croissance, dès que vous êtes actionnaire, vous vous dites avec un petit peu de croissance, je peux payer un multiple très élevé. Là, c'est quasiment mathématique. Et puis, il y a toute l'autre partie qui, elle, a été impactée par le ralentissement de l'activité, qui est toute la partie industrielle, européenne, à risque, où là, les valorisations sont à la casse, en tout cas en termes de part de marché ou en termes historiques. Et c'est sûrement là-dessus qu'il y a eu quelques effets de bonnes surprises. C'est-à-dire qu'au fond, quand on a l'impression qu'une affaire va mal, dans l'esprit d'investisseur, elle peut valoir souvent zéro. Ce qui n'est pas vrai, puisque avant de valoir zéro, il y a des étapes dans la vie de l'entreprise où il peut y avoir un acheteur. Donc il y a eu quelques bonnes surprises sur les opérations financières. L'année dernière, moi je me souviens de LVL Médical avec 90% de primes. C'est pas rien, hein. Il y a une part de marché, il y a un acteur qui a beaucoup d'argent. Air Liquide, et ils rachètent avec une énorme prime. Bah, je pense que 2013, c'est exactement ce qui va se passer. C'est qu'aujourd'hui, comme l'argent circule, l'activité va mal. Il y a quand même une capacité à adapter les moyens de production à une activité qui va mal. Il y a sûrement des parts de marché qui vont valoir quelque chose avec de grands acteurs qui, eux, s'endettent à très faible coût et qui, du coup, auront comme stratégie d'aller acheter les plus faibles. Donc, typiquement, je pense qu'il y aura de bonnes nouvelles sur des petits acteurs, peut-être moins bien identifiés, mais surtout des acteurs industriels qui valent actuellement 20-30% de leur chiffre d'affaires, ce qui est historiquement très bas. Donc, un marché à deux vitesses, la partie la plus visible, moi, je pense qu'il n'y a pas tellement d'opportunités, c'est plutôt à laisser de côté. Et puis, il faut aller gratter la cote. Je rappelle que l'année dernière, une des meilleures performances, c'est la Société Générale, qui l'eût cru. Mais c'est vrai que la Société Générale ne vaut jamais que 65% de ses fonds propres. Et là, par rapport à son plus haut historique, elle est toujours 4 fois moins chère. Donc, on parle de l'instant dans des grandes tendances qui ont fait très mal. La période 2008-2012 a fait beaucoup de mal à la valorisation de l'économie européenne. Moi, j'ai un chiffre en tête. Hein, en France, la capitalisation boursière rapportée au PIB n'est de l'ordre que de 60%, ce qui est vraiment typiquement une zone basse et qui doit rappeler chacun à l'ordre sur le fait que le jour où l'économie est à peu près correctement valorisée, il y a de la place pour tous les cours de bourse du marché de Paris qui n'existe plus vraiment d'ailleurs.
Alors le mot de la fin peut-être, la financière de l'échiquier qui a fait une acquisition, on se pose des fois des questions sur l'état des sociétés de gestion dans des marchés un peu faibles où il n'y a pas beaucoup de volume. Acropole Asset Management, ça élargit vos activités et stratégiquement c'est important.
C'est formidable parce que nous sommes un spécialiste des actions européennes, reconnu comme tel dans l'univers de ce qu'on appelle les CGP, donc la distribution. Qui est moins institutionnel. Et en fait, depuis quelques années, nous sommes non seulement un spécialiste d'action européenne, mais en plus, nous avons développé une activité obligataire et en plus, nous adressons aux institutionnels. Et il fallait un signe pour montrer que nous étions déterminés à grandir auprès de ces institutionnels et aussi dans le marché obligataire qui devient dorénavant notre domaine de compétence, car les banques s'en vont, les banques ont eu des problèmes dans cet univers-là, et laissent de la place, enfin, elles ont des problèmes de bilan, et elles laissent la place à des gens comme nous pour financer directement les entreprises. Ça tombe bien, nous, on connaît les entreprises, donc on est capable d'identifier celles à qui on peut plus volontiers prêter par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est tout ce que ça veut dire Acropole. Et en plus, c'est bien parce que ça nous met dans le peloton de tête des sociétés de gestion indépendante à Paris. Et comme je n'arrête pas de dire qu'on est installé pour les 20 prochaines années, j'espère qu'on va finir par me croire.
Eh bien, on en reparlera, bien entendu. Merci Didier, le ministre, d'avoir été avec nous.